Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de tous mes amis mauritaniens et sahéliens.
La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel.
Le 22 août 2019, 24 soldats burkinabés sont tués dans l'attaque du détachement militaire de Koutougou. Trois mois plus tard, le 1er novembre 2019 à Indéliman au nord du Mali, ce sont 49 militaires qui sont tués dans l'assaut d'une garnison des forces armées maliennes, les FAMA. Le pire est à venir au Niger. D'abord le 10 décembre 2019 à Inates, lorsque 71 soldats sont tués dans une attaque terroriste. Un mois plus tard, le 9 janvier 2020, le pays est victime de la pire attaque terroriste de son histoire, avec 89 soldats tués à Chinegodar, ville située à la frontière malienne. Ces derniers mois, les armées des pays du G5 Sahel ont dû faire face à de lourdes pertes dans leur combat contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Mais alors que ces armées peinaient à obtenir des résultats concrets sur le terrain, principalement par manque de moyens matériels et logistiques adéquats, des récentes révélations sur de supposés détournements des budgets de la défense posent question. Prenons l'exemple du Niger, où 71 milliards de francs CFA, oui, vous avez bien entendu, 71 milliards de francs CFA, soit environ 110 millions d'euros, auraient été détournés entre 2017 et 2019. Pour en parler aujourd'hui, l'auteur de cette grosse enquête qui a permis ces révélations, Moussa Aksar, journaliste chez nos confrères de l'événement au Niger. Bonjour Moussa.
Bonjour à vous.
Bienvenue dans Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel.
Alors, on va commencer simple. Moussa, concrètement, que montre votre enquête ?
Notre enquête montre qu'il y a eu 71,8 milliards de francs CFA qui ont été détournés au ministère nigérien de la Défense. Il se trouve que c'est entre 2017 à 2019, sur 133 milliards qui ont été injectés, 71 ont été détournés, ce qui représente 40% du budget et 40% de ce budget-là. L'enquête continue, puisque entre 2011 à 2020, c'est le budget qui a été injecté, c'est à peu près 515 milliards de francs CFA.
Mais sous quelle forme ces sommes ont été détournées ? La surfacturation, des rétrocommissions, pouvez-vous nous expliquer ?
Je vais vous expliquer comment est partie l'enquête. Nous nous sommes retrouvés avec le Consortium international du journalisme d'investigation ICIJ, dont je suis membre. Il y a 10 mois de cela, nous nous sommes retrouvés, nous avons vu des mouvements de comptes, des mouvements de fonds douteux qui quittent les pays de l'Est pour le Niger. À un certain moment, nous nous sommes dit que dans cette base de données, il y a des gens qui financent le terrorisme. En poursuivant notre enquête, nous avons trouvé que ce sont des rétrocommissions de certains marchés qui ont été attribués à des fournisseurs ukrainiens et russes. Ensuite, en poursuivant toujours cette enquête, nous avons trouvé des sociétés offshore qui sont liées maintenant à ce rapport quand il y avait eu la fuite par le ministère nigérien de la Défense. C'est en ce moment que nous avons poursuivi. Nous nous sommes procurés tous les documents qui sont originaux et nous avons conclu qu'il y a effectivement un vaste détournement de plus de 71 milliards de francs CFA.
Mais est-ce la première fois que de telles révélations font surface au Niger ?
Bon, par le passé, il y a eu des petites révélations. Et toujours, comme il y a une espèce de mafia autour de ce marché, et les principaux intervenants, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mettent le coude dessus pour que le public ne sache pas ce qui s'est passé. Et dans ce rapport, vous avez tout d'abord des surfacturations. Même malgré un rabattement de 30% qui a été concédé à ce fournisseur, ils se sont permis, et on a retrouvé le chiffre de 71,8 milliards. Ensuite, vous avez le trafic d'armes. Il y avait des induiseurs, ce certificat-là qui permet d'importer des armes, mais ces armes-là n'ont pas atterri au Niger. Elles ont suivi une autre destination. Et aujourd'hui, l'auteur de ces trafics d'armes-là continuer à vaquer à ses occupations. Vous avez aussi la création de sociétés offshore pour soutirer de l'argent au trésor public nigérien.
Finalement, j'allais vous poser la question, quelles sont les armes qui ont été commandées et est-ce que ces armes sont arrivées au Niger?
Oui, elles ont été commandées par le ministère nigérien de la Défense à deux reprises, mais elles ont suivi une autre destination dans des pays qui sont sous embargo et notre enquête a permis de déterminer que ce n'est pas au Niger. Donc, il y a eu ces trafics d'armes. Ensuite, vous avez, même si ces armes sont commandées, elles sont défectueuses. Nous avons plus de 1000 Kalachnikov, les AK-47, qui ont été livrés à l'armée nigérienne. Après, l'armée les a peints et elle les a livrés aux soldats. Et vous avez sur le terrain aussi des armes, des munitions qui sont défectueuses. Nous avons eu des témoignages, plusieurs témoignages, sur la mauvaise qualité de ces armes qui sont destinées aux soldats et ça impacte sur le travail qu'ils font sur le terrain.
Et il y a eu des réactions de la classe politique du Niger suite à ce scandale?
Oui, la classe politique a demandé à ce que les principaux auteurs et complices de ce vaste détournement rendent gorge. Le pouvoir a essayé, par le truchement de ses services, de lessiver ce dossier-là pour le ramener à un montant moindre qui avoisine 12 milliards au lieu que ce soit de 71 milliards. La classe politique et surtout et la société civile font de ce dossier vraiment leur livre de chevet. Et tout le monde ici au Niger est unanime. Il faudrait que ces auteurs-là qui sont tapis dans le cercle du pouvoir rendent gorge relativement à cette affaire.
Ce qui est incroyable, c'est que les principaux accusés se renvoient à la balle. Dans votre enquête, vous expliquez qu'un dénommé Abdourahman Manzo, un militant du parti au pouvoir domicilié à Bruxelles, il vous dit clairement que l'armée nigérienne manque de matériel adéquat et que le budget de la défense est utilisé pour enrichir les gens du système. Mais bien sûr que lui n'a rien à voir dans cette histoire.
Oui, il renvoie la balle parce qu'il a suivi tout le processus, il n'a pas voulu nous en dire plus, il a suivi tout le processus, il a compris que le ministre de la Défense de l'époque, qui se trouve être Karidjo, il avait approché, il avait des documents vraiment qui mettaient ce ministre en cause dans la livraison des armes défectueuses et surtout dans la création de sociétés offshore pour juste soutirer de l'argent au trésor public, mais aussi à travers les rétrocommissions.
Et quels sont les membres du pouvoir actuel, du gouvernement actuel qui sont en cause? Il y en a?
Oui, je peux vous dire, en ce qui concerne les marchés négociés par entente directe qui représentent dans cette affaire 75% de tous les marchés du ministère de la Défense, ces marchés sont encadrés par un décret. Qu'est-ce que dit ce décret? Le premier responsable d'abord, c'est le chef de l'État, qui doit tous les 6 mois avoir un rapport détaillé de tous les marchés qui ont été attribués. Donc il ne l'a pas fait. Depuis 9 ans qu'il est au pouvoir, il ne l'a pas fait. C'est la première fois parce qu'il y a eu cette fuite-là. Ensuite, vous avez le Premier ministre, le cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre a donné à tous ces marchés, il a donné un avis de non-objection. Donc sa responsabilité est engagée. Et vous avez tous les ministres de la Défense qui se sont succédés. Donc leur responsabilité est aussi engagée relativement à ce décret-là. Vous avez les chefs d'état-major qui se sont succédés. Vous avez les secrétaires généraux. Et au bas de l'échelle, vous avez aussi les directeurs de directeurs qui attribuent le marché, ces marchés-là, et les fournisseurs.
On va écouter le témoignage d'un soldat nigérien qui a été enlevé par un groupe de djihadistes en 2016 suite à l'attaque de Bani Bangou, située dans la région de Tillabéri au sud-ouest du pays.
Je suis garde national, j'ai 28 ans.
D'accord.
C'est en novembre 2016 qu'on nous a attaqués. C'était le 8 novembre 2016, c'est à Bani Bangou. Ils étaient beaucoup sur des motos, des véhicules, à peu près plus de 100 motos comme ça. Ils sont venus, on a échangé des tirs. Après, nos munitions se sont finies. Et ils sont rentrés dans le camp. Ils ont tué les blessés. Ça reste nous deux. Et ils sont partis avec nous. On était 17. Moi, j'ai pensé même que je suis en train de rêver, quoi. Après, à 500 et quelques kilomètres, ils se sont arrêtés pour déjeuner et ils ont égorgé mon ami. Oui, après l'égorgement, ils m'ont amené loin dans le Mali. Il y a des armes que moi, j'ai jamais vues. Ils m'ont dit de dire à l'État nigérien que tôt ou tard, ils vont venir à la prison Koutikale.
Ouais.
Libérer leurs amis. C'est toute une armée même, quoi. C'est toute une armée, quoi. Ce sont des vrais combattants, quoi. Et ils sont forts aussi, quoi. Ils sont bien équipés, ils sont nombreux et ils sont forts aussi, quoi. Vraiment, ce sont des combattants. Voilà, et que si on n'attache pas bien la ceinture là, ça ne va même pas finir, quoi. Parce qu'à chaque fois, ils recrutent. À chaque fois, ils recrutent. À chaque fois, ils recrutent. Ah oui, il faut prendre ça au sérieux quand même, quoi.
Moussa Aksar, il y a trois choses que je retiens de ce témoignage fort. Lorsque le soldat dit « Nos munitions se sont finies », ce sont de vrais combattants et ils ont des armes que je n'ai jamais vues. Même si on ne peut pas faire de lien direct avec ces attaques et le détournement du budget de la défense, on y pense forcément et ça fait mal.
Oui, ça fait très mal. Si vous vous rappelez, moi j'étais sur le terrain, j'étais à la ville de Malamfatori où j'ai couvert cette zone de guerre, où aussi j'ai trouvé un soldat qui me disait que la veille, ils ont fait un combat avec les éléments de Boko Haram, mais il m'a fait montrer son arme, un AK-47, il a dit que cette arme-là ne peut rien contre ce groupe djihadiste. Moi, à un certain moment, je disais qu'il avait des idées de superstition. C'est quand j'ai découvert plus tard cette enquête que j'ai compris qu'en réalité, c'était des munitions défectueuses et des armes défectueuses qui ont été livrées à ces soldats-là. Et aussi, vous avez de la qualité aussi, puisque généralement, ces fournisseurs vont dans des pays de l'Est où ils pouvaient trouver des armes à bon marché et venir les surfacturer au triple à l'État nigérien. Donc, ce que vient de dire ce soldat-là est confirmé par ce témoignage que j'ai reçu le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria. Un autre témoignage, c'est quand des avions nigériens, l'aviation nigérienne, bombarde les positions de Boko Haram, ces gens récupèrent les douilles, puisque les munitions n'explosent pas, pour aller faire des IED et poser des mines sur le passage des soldats loyalistes. Et ensuite, le soldat tout à l'heure disait que ces gens-là sont super équipés, c'est normal qu'ils soient super équipés, c'est normal qu'ils les recrutent, parce que vous avez la bonne gouvernance. Tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, la pauvreté qui sévit dans cette zone-là permet à ce groupe djihadiste de recruter. Ensuite, vous avez le trafic d'armes, et l'argent qu'ils ont à travers le trafic de drogue et le trafic de l'or aussi dans cette zone, leur permettre de s'équiper, puisque de s'équiper en Libye, ensuite de venir attaquer à ces États-là qui n'ont pas mis les moyens à leurs soldats pour qu'ils puissent sécuriser les pays.
Est-ce que les politiques ont conscience qu'il y a un manque de moyens, de matériaux et de moyens techniques et logistiques pour combattre face à ces groupes djihadistes qui se, entre guillemets, professionnalisent de plus en plus?
Oui, mais quand les politiques détournent de l'argent, on ne peut pas dire qu'ils ont conscience, mais vous voyez, avec ce détournement, et ici au Niger et un peu partout dans cette zone, c'est que c'est l'inconséquence du politique qui nous amène à cette situation-là.
D'accord. Est-ce que les partenaires et les bailleurs de fonds dans la lutte contre le terrorisme exigent une bonne gouvernance de la part des pays sahéliens?
Bon, vous savez, les partenaires aujourd'hui, au vu de questions géopolitiques, géostratégiques, notamment les Occidentaux, la Chine et puis la Russie, et surtout les Occidentaux, notamment les Américains, les Français, qui apportent leur soutien matériel à ces armées sahéliennes, ferment les yeux, la plupart des cas, sur les détournements de ce fonds-là pour ne pas mécontenter les gouvernants. Du fait, il ne faut pas qu'ils se tournent vers les pays comme la Russie et la Chine. C'est ce qui amène tous ces problèmes et on rentre dans un engrenage qui sera difficile, ça sera difficile de s'en sortir si l'on n'y prend garde.
Et je vous ai pas demandé le volet société civile. Justement, comment c'est perçu par la société civile la multiplication des attaques, le nombre élevé de soldats morts face aux révélations des détournements de fonds de la part d'anciens membres ou de membres actuels de gouvernement?
La société civile continue de faire son travail. Prenez le cas du Niger, où aujourd'hui, vous avez trois acteurs de la société civile qui gardent prison parce que, injustement, parce que juste ils ont demandé des comptes au régime pour qu'ils poursuivent les auteurs et complices de ce détournement-là. Presque chaque mois, vous avez au niveau de la société civile nigérienne des acteurs qui font des communiqués et qui disent qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Il faudrait que ces gens-là qui ont détourné l'argent des soldats, et si l'aviation, par exemple, avait intervenu à temps suite à l'attaque du Nates, on n'allait pas avoir autant de morts. C'est l'enquête qui l'a démontré, parce que l'aviation n'avait pas les moyens pour aller intervenir au niveau de cette zone-là. C'est pour cela que les soldats se sont battus 2 heures durant. Et dans les calculs de l'état-major, c'est prévu que l'aviation intervienne 40 minutes. L'aviation n'a pas intervenu. C'est des centaines de soldats nigériens qui sont tombés. Donc, la société civile est en train de monter des dossiers pour porter plainte même à l'international afin que les auteurs et complices soient condamnés.
Mais en lisant votre article, on a l'impression qu'il y a une sorte d'impunité de la part des présumés coupables.
Oui, ils sont tous proches du pouvoir. Et quand la plupart des dossiers sont montés au cabinet du Premier ministre ou au niveau du cabinet du président de la République, comment voulez-vous que la justice, et la justice aujourd'hui, la justice, il n'y a pas de justice dans nos États, même si nous sommes en démocratie. Donc, c'est difficile de voir que ces gens-là puissent rendre gorge parce que nous n'avons pas une justice qui est libre, qui est indépendante dans la plupart de nos États.
On arrive à la dernière question. Les présidentielles nigériennes sont prévues pour le 27 décembre prochain. On sait que le président Muhammadu Issoufou ne va pas se représenter. Est-ce que les élections peuvent changer quelque chose?
Oui, les élections peuvent changer quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez des gens de valeur. Si vous voyez qu'il y a eu cette fuite de ce rapport, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut arrêter toute cette mafia autour de ces marchés-là publics. Donc, c'est l'actuel ministre de la Défense qui a fait fuiter ce document. Il l'a dit devant ses partisans et il a dit des choses extrêmement graves en ce qui concerne ses fournisseurs et les fonctionnaires qui sont impliqués. Donc, il y a des gens de valeur, mais ces élections-là, si toutefois l'État n'est pas capté par ces gens qui ont les mains sales, on pense que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, on pense que les choses vont changer. Quand il y a des gens de valeur, seront au pouvoir, et on l'espère, et beaucoup de choses peuvent changer. Mais si toujours est-il que c'est ceux qui ont l'argent qui vont venir acheter les électeurs, on va toujours se retrouver dans cet engrenage et c'est difficile de s'en sortir.
Deux dernières questions concernant vos enquêtes. Est-ce qu'il y aura d'autres révélations à venir et est-ce que vous avez subi des pressions de la part des personnes concernées?
Oui, écoutez, moi je suis un abonné aux pressions, que ce soit les trafiquants de drogue et les trafiquants d'armes. Il y a même un des trafiquants qui m'a menacé de mort. Et j'ai porté plainte au niveau du juge, ça fait plus de 3 mois. Et cette plainte n'a pas prospéré parce qu'il est protégé par le pouvoir actuel. Donc j'ai subi chaque fois des pressions. Mais toujours est-il que je vous réserve toujours la surprise, il y aura des enquêtes, il y aura des choses et on va continuer pour que les lumières soient faites ici ou ailleurs sur ce dossier-là.
On arrive à la fin de cet épisode. Moussa Aksar, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et je terminerai avec les mots du soldat nigérien Irkoy Tamo, mortellement blessé le 18 mai 2020. Il a eu la force de rédiger avant de mourir sur un papier taché de sang. « Monsieur le juge, ici, un soldat est mort en mission pour la République. Il ne veut ni honneur militaire, ni pleurs et lamentations. Comme tous ceux qui sont morts avant lui à Diffa, Tillaberi, Tawa et ailleurs, il ne souhaite qu'une seule chose, être rassuré que vous aussi, vous accomplirez dignement votre mission et monterez un dossier solide contre ceux qui ont transformé cette guerre en business. »
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. 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 Écho du Sahel.